Chapitre 11. Plaine d'Ilium.
Les dieux sont venus jouer. Plus précisément, ils sont venus tuer. La bataille fait rage depuis quelque temps déjà, avec Apollon qui s'en prend aux Troyens tandis qu'Athénée excite les Argiens, et que d'autres dieux, installés à l'ombre des feuillages sur la colline la plus proche, profitent du spectacle pendant qu'Iris et ses suivantes leur servent à boire. Je viens de voir Pyrrhos, le chef des Thraces, courageux allié des Troyens, tuer Diorès aux yeux gris d'un coup de pierre. Diorès, l'un des commandants du contingent épéen, était seulement blessé à la cheville après qu'un Pyrrhos en furie lui ait jeté un roc, mais la plupart de ses camarades ont battu en retraite. Le Thrace s'est frayé un chemin jusqu'à lui à coups de pique, et le pauvre Diorès, impuissant, la cheville broyée, n'a rien pu faire lorsque Pyrrhos lui a planté son arme dans le ventre, lui arrachant les tripes avec la pointe barbelée, qu'il a consciencieusement remué dans la plaie pendant que sa victime hurlait tout son soûl. Telle fut la saveur de la demi-heure écoulée, et je pousse un soupir de soulagement lorsque Pallas Athénée lève la main et, avec la permission des autres dieux sur place, arrête le temps et interrompt tout mouvement. Grâce à ma vision améliorée et à mes verres de contact divins, je vois Athénée derrière une forêt de lances qui transforme Diomède, fils de Tidée, en machine à tuer. Au sens littéral du terme, ou presque. À l'instar des dieux eux-mêmes et de mon humble personne, Diomède va devenir mi-homme, mi-machine. Ses yeux, sa peau et jusqu'à son sang étant désormais pris en charge par une nanotechnologie originaire d'un avenir incroyablement éloigné de mon époque. Toujours en temps suspendu, Athénée glisse sous les paupières de l'Achéen des lentilles de contact, semblables aux miennes, qui lui permettront de voir les dieux et même de ralentir le cours du temps à condition de se concentrer dans le feu de l'action, ce qui aura pour effet, aux yeux d'un observateur non prévenu, de le rendre trois fois plus rapide que la normale. Elle allume en lui un feu vivace, pour citer Homère, dont je comprends maintenant la métaphore. Grâce aux nanomachines enchâssées dans sa main et son avant-bras, Athénée transforme en véritable champ de force le champ électromagnétique d'intensité négligeable qui entoure Diomède. Perçu en vision infrarouge, l'ensemble formé par le corps, les bras, le bouclier et le casque de Diomède évoque l'astre de l'arrière-saison qui resplendit d'un éclat sans rival. En voyant Diomède étinceler dans l'ambre épais du temps figé, je comprends qu'Homère faisait sans doute allusion à Sirius, l'étoile du chien, la plus brillante du ciel grec et troyen, à la fin de l'été. Ce soir, elle flamboie à l'Orient. Sous mes yeux, Athénée injecte dans la cuisse de Diomède des milliards de machines à l'échelle nanoscopique. Comme toujours en pareil cas, l'organisme considère cette invasion comme une infection et la température de Diomède grimpe de 3 degrés. Je vois l'armée de machines progresser de sa cuisse à son cœur, de son cœur à ses poumons, et de là à tous ses membres, et leur chaleur augmente encore le rayonnement de son corps dans l'infrarouge. Tout autour de moi, la mort fait une pause de plusieurs minutes sur le champ de bataille. À 10 mètres sur ma gauche, un char s'est figé dans une bulle de poussière, de sueur humaine et d'écume équine. Le guerrier troyen qui s'y trouve, un petit homme placide du nom de Phégé, fils de Darès, principal prêtre troyen du dieu Héphaïstos, et frère d'un homme trapu du nom d'Idée, avec qui j'ai partagé le pain et le vin une bonne douzaine de fois sous divers déguisements, est pétrifié à son poste, une main sur le rebord de son véhicule, l'autre empoignant une javeline. Idée se tient à côté de son frère, figé dans le geste de fouetter les chevaux d'une main, l'autre étant refermé sur les rênes. Le char s'est immobilisé alors qu'il fonçait sur Diomède, et personne ici ne sait que la déesse Athénée a arrêté le temps pendant qu'elle joue à la poupée avec le champion qu'elle a élu, habillant Diomède de champs de force, de verres de contact et de nanodopants à la façon d'une petite fille s'amusant avec sa Barbie. Je me souviens d'une fillette jouant avec des poupées Barbie, peut-être une sœur cadette observée durant mon enfance. Je ne pense pas avoir eu de fille. Je n'en sais rien, évidemment, car les souvenirs qui me reviennent depuis quelques mois sont pareils à des éclats de verre porteurs d'images floues. Je me tiens suffisamment près du char pour percevoir l'exultation marquant le visage hâlé de Phégé et la peur qui habite ses yeux marrons. Si Homère ne s'est pas trompé, Phégé sera mort dans moins d'une minute. Je vois d'autres dieux accourir sur le champ de bataille, tels des charognards attirés par un massacre. Voici Arès, le dieu de la guerre, qui se matérialise près de moi et s'approche du char figé monté par Idée et son frère condamné. D'un geste de la main, Arès ouvre son champ de force derrière le véhicule menant les deux frères à la mort. Pourquoi Arès se soucie-t-il de ces deux-là? Certes, Arès n'est pas un ami des Grecs. De toute évidence, il a appris à les haïr au fil de cette guerre, et il ne manque pas une occasion de les éliminer, directement ou indirectement. Mais pour quelle raison cherche-t-il à épargner Phégée et Idée? Est-ce seulement pour contrer la stratégie d'Athénée qui favorise Diomède? Cette incessante partie d'échecs où les pions sont des hommes qui tombent, hurlent et meurent, est devenue à mes yeux là une véritable obscénité. Mais la stratégie des dieux continue à m'intriguer. Puis je me rappelle que le dieu de la guerre est le demi-frère d'Héphaïstos, le dieu du feu, lui aussi fils d'Érée, épouse de Zeus. D'Arès, le père de Phégée et d'Idée, a servi fidèlement le dieu du feu dans l'enceinte de Troie. Cette guerre stupide est encore plus compliquée, plus insensée que la guerre du Vietnam dont ma jeunesse a été contemporaine. Soudain, Aphrodite, ma nouvelle patronne et l'officier contrôleur de l'espion que je suis, apparaît par Técu à 30 mètres sur la gauche. Elle aussi est ici pour aider les Troyens et savourer le massacre. Sauf que, quelques secondes avant que le temps reprenne son cours, je me rappelle que si les événements se déroulent conformément à l'antique épopée, Aphrodite elle-même va être blessée par Diomède dans l'heure qui vient. Mais pourquoi descend-elle au cœur de la mêlée sachant qu'un mortel va lui porter un coup? La réponse est celle-là même que l'on m'a souvent rappelée ces 9 dernières années, mais qui me frappe maintenant avec la violence d'une explosion atomique. Les dieux ne savent pas ce qui va se passer. Seul Zeus, semble-t-il, est autorisé à deviner à l'avance les œuvres du destin. Nous savons cela, nous autres scoliastes. Zeus nous interdit d'évoquer l'avenir avec les dieux, et ceux-ci n'ont pas le droit de nous interroger sur les prochains chants de l'Iliade. Nous devons nous borner à constater que les événements enregistrés chaque jour sont conformes à ceux qu'a décrit Homère. Combien de fois Nightenhelser et moi avons-nous commenté ce paradoxe, tandis que les petits hommes verts traînaient leurs têtes de pierre vers le rivage sur fond de soleil couchant? Combien de fois nous sommes-nous émerveillés de la cécité des dieux? Je sais qu'Aphrodite va être blessée aujourd'hui, mais elle l'ignore. Comment puis-je exploiter cette information? Si j'en faisais part à Aphrodite, Zeus le saurait. De quelle manière, je n'en ai aucune idée, mais cela ne fait aucun doute. Je finirais atomisé et Aphrodite aurait elle aussi droit à une punition. Aphrodite, la déesse qui m'a fait don de ma panoplie d'espions, va peut-être se faire blesser par Diomède. Et quel parti puis-je tirer de cette information? Je n'ai pas le temps de répondre à cette question. Athénée, qui a fini d'apprêter Diomède, relâche son emprise sur l'espace et le temps. Retour de la lumière réelle, du bruit terrible et du mouvement violent. Diomède s'avance, le corps, le visage et le bouclier étincelant, habité d'une lumière visible à tous les mortels, à ses camarades achéens, comme à ses ennemis troyens. Idée achève de propulser ses chevaux en avant. Le char fonce vers les phalanges grecques en rugissant et en grondant, droit sur un Diomède interloqué. Phégée lance sa javeline. Elle rate Diomède de quelques centimètres et sa pointe passe au-dessus de l'épaule gauche du fils de Tidée. Diomède, le visage empourpré, le front baigné d'une sueur fiévreuse et d'une chaleur belliqueuse, lance son propre javelot. Celui-ci atteint sa cible en plein centre, se plantant dans le torse de Phégée, entre les mamelles, dit Homère dans son poème, qui est propulsé vers l'arrière, roulant sur lui-même à plusieurs reprises après avoir heurté le sol, s'immobilisant dans l'ombre du char qu'il montait si fièrement 5 secondes plus tôt, une hampe brisée fichée dans sa poitrine. La mort frappe avec célérité dans la plaine d'Ilium. Idée quitte le char d'un bond, roule sur lui-même et se relève non sans peine, l'épée à la main, prêt à protéger le cadavre de son frère. S'emparant d'une pique, Diomède fond sur lui, visiblement prêt à l'embrocher et à oxyre le deuxième fils de Darès. Le jeune Troyen veut fuir, oubliant le corps de Phégée, si grande est sa panique, mais Diomède lance son arme d'un mouvement plein de puissance et la pointe file tout droit vers le dos du fuyard. Mais Arès, le dieu de la guerre, s'envole. S'envole littéralement grâce à un harnais de lévitation identique à celui que je porte. Et arrête à nouveau le cours du temps, protégeant Idée d'une pique maintenant immobilisée à 3 mètres de lui. Puis Arès augmente le rayon de son champ de force afin qu'il englobe le fuyard et stoppe l'arme de Diomède lorsque le temps s'écoule à nouveau. Ensuite, Arès téléporte le Troyen terrifié loin du champ de bataille, l'évacuant dans un abri sûr. Aux yeux des guerriers frappés d'horreur, c'est comme si une tranche de nuit venait d'emporter leurs camarades. Ainsi, Héphaïstos, le frère d'Arès, le dieu du feu, aura conservé un prêtre pour l'avenir. Songeais-je. Puis je me mets à l'abri, moi aussi, car la bataille reprend de plus belle, et d'autres Grecs s'engouffrent dans la brèche ouverte par Diomède. Les chevaux emportent le char de Phégée sur la plaine rocailleuse où il est capturé par des Achéens ravis. Arès est revenu, apparaissant comme à moitié solide, et sa silhouette divine tente d'inspirer les Troyens, sa voix divine les exhorte à se regrouper pour repousser Diomède. Mais il ne rencontre qu'un demi-succès, car si certains obéissent à son discours tonitruant, d'autres s'enfuient épouvantés devant le terrible Diomède. Soudain, Athénée survole la mêlée de Grecs et de Troyens, saisit le poignet d'Arès et lui murmure quelques mots à l'oreille. Tous deux disparaissent. Je jette un coup d'œil sur ma gauche, et la déesse Aphrodite, invisible aux yeux des guerriers des deux camps qui luttent, jurent et meurent autour d'elle, me fait comprendre d'un geste que je dois les suivre. Je rabats le casque d'Hadès sur mon visage, devenant invisible aux yeux de tous les dieux, excepté Aphrodite, puis j'actionne le médaillon autour de mon cou et me técue sur les talons d'Athénée et d'Arès, suivant leur sillage dans l'espace-temps avec autant de facilité que si c'était des traces de pas sur le sable mouillé. Il est facile d'être un dieu, à condition d'être bien équipé. Ils ne sont pas allés très loin. Et je les retrouve à 15 kilomètres de là, dans un coin ombragé bordant le Scamandre, que les dieux appellent le Xanthe, un grand fleuve coulant près de la plaine d'Ilium. Comme je me matérialise à 15 pas d'eux, Arès relève vivement la tête et me fixe droit dans les yeux. L'espace d'un instant, je me dis que le casque d'Hadès est en panne, qu'il me voit, que je suis mort, que je suis mort.
« Qu'y a-t-il ? »
demande Athénée.
« J'ai cru sentir quelque chose. » Un flux quantique.
La déesse tourne vers moi ses yeux gris.
Il n'y a rien. Et je perçois tous les spectres de Sophasique.
Moi aussi, ne l'oublie pas.
Réplique sèchement Arès. Ses yeux se détournent de moi. Je pousse un soupir que j'espère muet. Le casque d'Hadès me protège toujours. Le dieu de la guerre se met à faire les 100 pas sur la berge du fleuve.
Dieu sait partout ces temps-ci.
Athénée marche à ses côtés.
Oui,
fait-elle.
Père est fâché contre nous.
Alors, pourquoi le provoques-tu?
La déesse fait halte.
Comment le provoquerai-je? En préservant mes Achéens du massacre?
En préparant Diomède à faire un massacre,
rétorque Arès. Pour la première fois, je remarque que les cheveux bouclés de ce dieu aux muscles d'athlète ont une nuance de rouge.
Tu agis de fort dangereuse façon, Pallas Athénée.
La déesse a un petit rire.
Cela fait 9 ans que nous intervenons dans cette guerre. C'est le jeu, nom de Dieu. C'est ce que nous faisons. Je sais que tu as l'intention d'intervenir aujourd'hui au nom de ta bien-aimée Ilium. De massacrer mes Argiens comme du bétail. Ce n'est pas dangereux, cette participation active du dieu de la guerre?
Pas autant que d'armer un camp ou l'autre avec des nanomachines. Pas autant que de les équiper de champs de sophasiques. Qu'est-ce qui te prend, Athénée? Chercherais-tu à transformer ces mortels pour faire d'eux nos égaux? Pour faire d'eux des dieux?
Athénée part d'un nouveau rire, devenant plus sérieuse lorsqu'elle s'aperçoit que cela ne fait qu'irriter un peu plus Arès.
« Frère, les améliorations que j'ai accordées à Diomède ne sont que temporaires, tu le sais bien. Je souhaite seulement qu'il survive à ce jour. Aphrodite, ta sœur bien-aimée, a déjà incité Pandare, l'archer troyen, à blesser l'un de mes favoris, Ménélas. Et en ce moment même, elle lui murmure à l'oreille « Tue, Diomède ».
Arès hausse les épaules. Je sais qu'Aphrodite est son alliée et son inspiratrice. Pareil à un garçonnet boudeur, un garçonnet de 2,50 m de haut équipé d'un champ énergétique, il ramasse un galet et réussit un ricochet.
Quelle importance si Diomède meurt aujourd'hui ou l'année prochaine! C'est immortel après tout!
Cette fois-ci, Athénée éclate franchement de rire.
Bien sûr qu'il est mortel, mon cher frère! Bien sûr que la vie et la mort de ces créatures n'ont aucune importance pour nous, pour moi. Mais nous devons jouer le jeu. Je ne laisserai pas cette putain d'Aphrodite faire pencher la volonté du destin.
Lequel d'entre nous connaît la volonté du destin?
Réplique Arès, la lippe toujours boudeuse, les bras croisés sur son torse imposant.
Père la connaît.
C'est ce qu'il dit.
Répond le seigneur de la guerre avec un rictus.
Douterais-tu de notre seigneur et maître?
Le ton d'Athénée est presque taquin, presque, mais pas tout à fait. Arès regarde vivement autour de lui et pendant une seconde, je redoute de m'être trahi alors que j'ai pris la précaution de me poster sur un rocher pour ne pas laisser de traces dans le sable. Mais le regard du dieu de la guerre passe sur moi sans s'attarder.
« J'ai le plus grand respect pour notre père !»
déclare-t-il. Sa voix me rappelle celle de Richard Nixon lorsqu'il parlait pour le bénéfice du micro que lui-même avait planqué dans le bureau ovale, lorsqu'il léguait ses mensonges à l'histoire.
« Zeus a mon allégeance, ma loyauté et mon amour, Pallas Athénée !»
conclut le dieu de la guerre.
« Et notre père ne manquera pas de te les rendre !»
répond Athénée sans plus se soucier de dissimuler son sarcasme. Soudain, Arès relève vivement la tête.
« Nom de Dieu !»
s'écrie-t-il.
« Tu m'as amené ici uniquement pour me tenir à l'écart du champ de bataille pendant que tes maudits Achéens massacrent mes Troyens !»«
Bien sûr !»
Athénée lance ses deux dernières syllabes comme une nouvelle taquinerie et, l'espace d'une seconde, je me crois sur le point d'assister à un spectacle que je n'ai pas vu une seule fois en 9 ans. Un combat singulier entre dieux. Mais Arès se contente de se téléporter après avoir trépigné une dernière fois. Athénée s'esclaffe, s'agenouille au bord du fleuve et se passe de l'eau fraîche sur le visage.
« Imbécile !»
murmure-t-elle. Je présume qu'elle s'adresse à elle-même, mais cet adjectif pourrait tout aussi bien me qualifier. Moi qui assiste à la scène protégée par le seul champ de distorsion de mon casque d'Hadès. Oui, imbécile convient parfaitement pour décrire mon attitude. Athénée se téléporte sur le champ de bataille. Après avoir consacré une bonne minute à trembler de mon imbécilité, je fais un saut phasique et la suis. Grecs et Troyens continuent de s'entretuer. C'est l'info du jour. Je cherche le seul autre scoliaste visible sur le champ de bataille. Pour un œil non équipé, Nathan Elser n'est qu'un fantassin troyen crasseux, se tenant à l'écart des combats les plus acharnés, mais j'aperçois nettement l'aura verte par laquelle les dieux marquent les scoliastes, même Morphée, et j'ôte mon casque d'Hadès, prends l'aspect de Phalkès, un troyen destiné à être tué par Antiloque, et vais rejoindre Nathan Elser qui s'est posté sur une petite colline pour dominer le carnage.
« Bonjour, Scoliast Hockenberry, »
dit-il en me voyant. « Nous nous exprimons en anglais. Aucun Troyen n'est assez prêt pour nous entendre, vu le fracas des armes et le tonnerre des chars. Et de toute façon, on est habitué dans les deux camps à entendre des dialectes et des langages obscurs et inconnus. « Bonjour, Scoliast Nathan Elser. »
« Où étiez-vous durant la demi-heure écoulée ?»«
J'ai fait une pause, » répliquai-je. « Cela arrive parfois. » Le carnage finit par devenir insoutenable, même à nos esprits de scoliastes, et nous filons à trois en quête d'un peu de calme, ou d'une outre de vin. « J'ai raté quelque chose ?» Nathan Elser hausse les épaules.
« Diomède a donné la charge il y a 20 minutes, et il a été frappé par une flèche. »«
Pandare, » dis-je en opinant, le même archer troyen qui a blessé Ménélas un peu plus tôt.
« J'ai vu Aphrodite lui souffler l'idée. » ajoute Nathan Elser. Le gros homme a les mains enfouies dans les poches de sa cape. Les capes troyennes n'ont pas de poche, évidemment, et c'est Nathan Elser qui a retouché la sienne.
Ça, c'est de l'inédit. Selon Homère, Athénée a bien incité Pandare à frapper Ménélas afin de violer la trêve, mais il ne mentionne aucune intervention d'Aphrodite auprès du même Pandare. Ce dernier se révèle être un véritable bouffon, le jouet des dieux.
Blessure superficielle, dis-je. À l'épaule. Sthénélos lui a arraché la flèche. De toute évidence, elle n'était pas empoisonnée. Athénée, qui venait de refaire son apparition, l'a entraînée à l'écart et a empli d'énergie ses bras, ses pieds et ses mains vaillantes.
Nathan Elser vient de citer là une traduction de l'Iliade qui m'est inconnue. Encore des nanos.
Est-ce que Diomède a retrouvé et tué l'archer?
Il y a 5 minutes.
Est-ce que Pandare a prononcé son interminable tirade avant de se faire trucider?
Dans ma traduction préférée, Pandare passe 40 vers à se lamenter sur son sort, puis il a une longue conversation avec un capitaine troyen du nom d'Énée, oui, celui de l'Énéide, et tous deux foncent sur Diomède dans un char, lançant des piques à l'Achéen blessé.
Non,
répond Nathan Elser.
Pandare s'est contenté de dire « putain » quand son trait a raté sa cible. Puis il a rejoint Énée sur son char, il a lancé sur Diomède une pique qui a transpercé son bouclier et son plastron, sans toutefois l'atteindre dans sa chair, et il a dit « merde » une seconde avant que la lance de Diomède le frappe entre les deux yeux. Encore un exemple de licence poétique de la part d'Homère, je présume.
Et Énée? Cet épisode revêt une importance cruciale, autant sur le plan littéraire que sur le plan historique. Je n'arrive pas à croire que je l'ai loupé.
Aphrodite vient de le sauver il y a 1 minute,
confirme Nathan Elser. Énée est le fils de la déesse de l'amour et elle veille jalousement sur lui.
Diomède lui a fracassé le cotyle d'un coup de pierre, comme dans le poème,
poursuit mon collègue, mais Aphrodite a protégé son rejeton avec un champ de force et elle est présentement en train de l'évacuer.
Diomède en est profondément contrarié.
Je mets ma main en visière. Où est Diomède en ce moment?
Mais je repère le guerrier grec avant que Nathan Elser ait eu le temps de me répondre. Il se trouve à 100 mètres de nous, au cœur de la mêlée, loin derrière les lignes troyennes. L'Achéen, étincelant, donne de l'épée au sein d'une nuée de sang et il est entouré de toutes parts par des monceaux de cadavres. On dirait qu'il se fraye un chemin dans de la chair humaine pour rattraper Aphrodite dans sa lente fuite.
« Tout Jésus, soufflai-je. »«
Ouais, »
fait l'autre scoliaste.
Au cours des dernières minutes, il a tué Astynos et Hyperion, Abas et Polyidos, Xanthé et Toon, Échémon et Chromios. Toutes les paires de capitaines.
Pourquoi par paire?
M'interrogeai-je à haute voix. Nathan Elser me fixe comme si j'étais un cancre de première année.
Ils étaient dans des chars, Hockenberry. Il y a 2 hommes par char. Diomède les a tous tués à mesure que les chars fonçaient sur lui.
Ah, fais-je mortifié.
J'ai cessé de penser aux victimes troyennes pour me concentrer sur Aphrodite. La déesse, toujours porteuse d'Énée, vient de marquer une pause dans sa retraite vers les lignes troyennes et elle est parfaitement visible aux yeux des guerriers terrifiés fuyant devant l'offensive de Diomède. Aphrodite les encourage à retourner au combat avec des décharges électriques et des poussées de champs de force. Diomède l'aperçoit et, pris de folie meurtrière, fauche de son épée une phalange de Troyens pour aller affronter la déesse en personne. Il ne fait pas de discours, se contente de lever sa javeline. Aphrodite active un champ de force presque machinalement, sans prendre la peine de lâcher son fardeau, ne redoutant nullement l'attaque d'un mortel.
Elle a oublié les petites modifications qu'Athénée a apportées à celui-ci.
Diomède bondit, le champ de force crépite et cède, l'Achéen fonce en brandissant sa javeline, dont la pointe barbelée pénètre le champ de force personnel, la robe de soie et la divine chair d'Aphrodite. Le bronze affûté comme un rasoir entaille le poignet de la déesse, dévoilant le muscle rouge et l'os blanc. Et c'est un ichor doré, plutôt qu'un sang écarlate, qu'on voit jaillir dans les airs. Aphrodite fixe sa blessure d'un air interdit, puis pousse un cri inhumain, terrible, amplifié,
que l'on croirait sorti d'une batterie d'ampli dans un concert de rock donné aux enfers. Toujours hurlante, elle vacille et lâche Énée. Plutôt que d'exploiter son avantage, Diomède, dédaignant Aphrodite, dégaine son épée et se prépare à décapiter Énée, toujours inconscient. Phébos Apollon, le dieu à l'arc d'argent, se matérialise entre Diomède et le Troyen et tient l'Achéen en respect grâce à un champ de plasma qui a l'aspect d'un hémisphère palpitant. Aveuglé par sa soif de sang, Diomède attaque le champ de force à coups d'épée et le contact de son champ énergétique rouge avec celui d'Apollon de couleur jaune fait naître une guirlande d'étincelles crépitantes. Aphrodite, qui semble hypnotisée par le spectacle de son poignet meurtri, est sur le point de défaillir aux pieds d'un Diomède toujours en furie. Apparemment, sa souffrance est telle qu'elle est incapable de se téléporter. Soudain, son frère Arès descend dans un chariot de feu, écartant de son passage les Grecs comme les Troyens à mesure qu'il élargit son champ de force de façon à se poser près d'elle. Aphrodite, passant du bredouillis au cri hystérique, tente de lui expliquer que Diomède est devenu fou.
« Il combattrait Zeus père lui-même !»
s'exclame la déesse en tombant dans les bras du dieu de la guerre.
« Tu es en état de piloter ce char ?»
lui demande ce dernier.
« Non !»
Et Aphrodite défaille. Lorsqu'Arès la rattrape, elle tient toujours son poignet gauche blessé dans sa main droite, maculé de sang, ou d'ichor. Le spectacle est des plus troublants. Les dieux et les déesses ne saignent pas. Du moins, je n'ai jamais vu ça en 9 ans de présence ici. La déesse Iris, messagère personnelle de Zeus, fait son apparition entre le char et le champ de force d'Apollon qui continue de protéger Énée. Les Troyens se sont mis à reculer, les yeux exorbités, et Diomède est bloqué par l'effet conjugué des champs énergétiques. L'Achéen rayonne de rage et de chaleur dans l'infrarouge, évoquant un guerrier modelé dans la lave palpitante.
« Conduis-la à sa mère !»
ordonne Arès en allongeant sur le char Aphrodite inconsciente. Iris fait décoller le véhicule et disparaît à la vue.
« Stupéfiant !»
commente Nightenhalser.
« Putain de show !»
renchéris-je. En 9 ans de présence, c'est la première fois que je vois un guerrier, grec ou troyen, attaquer un dieu avec succès. Je me tourne vers Nightenhalser et le découvre positivement choqué. Il m'arrive parfois d'oublier que mon collègue vient d'une époque antérieure à la mienne. Pardon. Je voudrais suivre Aphrodite à Olympos et assister à sa conversation avec Zeus. Homère l'a décrite en détail, mais j'ai constaté suffisamment de discordance entre réalité et épopée pour que ma curiosité en soit éveillée. Je m'éloigne discrètement de Nightenhalser, qui est tellement absorbé par les événements qu'il ne remarque pas mon départ, et me prépare à enfiler le casque d'Hadès et à actionner mon médaillon TQ. Mais voilà qu'il se passe des choses sur le champ de bataille. Diomède pousse un cri de guerre presque aussi assourdissant que le cri de douleur d'Aphrodite, dont les échos continuent de résonner, et l'Achéen, surpuissant, charge de nouveau Apollon et Énée. Cette fois-ci, son corps musclé à coups de nano et son épée capable de saut phasique ont raison des couches extérieures du champ énergétique d'Apollon. Celui-ci reste immobile, tandis que Diomède taille son champ crépitant avec les gestes d'un homme pelletant une neige invisible. Puis, la voix d'Apollon se fait entendre, tellement amplifiée qu'elle doit être audible à 5 kilomètres à la ronde.
« Réfléchis, Diomède. Arrière. C'est folie de mortel que d'affronter les dieux. Nous ne sommes pas de la même espèce, humains. Jamais nous ne l'avons été. Jamais nous ne le serons. »
Déjà impressionnant, Apollon croit jusqu'à devenir un géant haut de plus de 6 mètres. Diomède cesse de frapper et recule, quoiqu'il soit impossible de dire s'il est terrifié ou tout simplement épuisé. Apollon se penche pour opacifier le champ de force autour d'Énée et de lui-même. Lorsque la brume noire se dissipe, 1 minute plus tard, le dieu a disparu, mais Énée est toujours là, la hanche fracassée, le corps ensanglanté. Les Troyens se regroupent en hâte autour de leur chef blessé et abandonné, avant que Diomède ne le massacre. Sauf que ce n'est pas Énée. Apollon a laissé derrière lui un hologramme extensible et emporté le prince blessé à Pergame, la citadelle d'Ilium, où les déesses Leto et Artémis, la sœur d'Arès, vont en un rien de temps guérir ses blessures et lui sauver la vie grâce à leur science divine à la sauce nanotech. Je m'apprête à filer à Olympos quand, soudain, Apollon revient sur le champ de bataille, invisible aux yeux des mortels. Arès, toujours occupé à rallier les Troyens derrière son bouclier défensif, lève les yeux à son arrivée.
« Arès, fléau des hommes, assailleur de remparts, vas-tu laisser cet enfoiré t'insulter comme il le fait ?»
Apollon désigne du doigt un Diomède en sueur et reprenant son souffle.
« Insulté ? Et en quoi m'insulte-t-il ? Espèce de crétin !»
tonne Apollon. Il communique sur une fréquence ultrasonique, uniquement captée par les dieux, les scoliastes et les chiens de Troie qui se mettent à hurler à la mort en chœur.
Ce mortel vient tout juste d'agresser ta sœur, la déesse de l'amour, tailladant les tendons de son poignet d'immortel. Diomède s'est même jeté sur moi, qui suis l'un des plus puissants parmi les dieux. Athénée a fait de lui une espèce de surhomme pour ridiculiser Arès, dieu de la guerre, buveur de sang.
La tête d'Arès se tourne lentement vers Diomède, qui, toujours essoufflé, ne lui a prêté aucune attention depuis qu'il a échoué à neutraliser les champs de force.
« Il se rit de moi !»
s'écrie Arès. On entend son cri jusqu'à Olympos. Au fil des ans, j'ai pu constater que c'est un dieu plutôt stupide. Il le prouve une nouvelle fois ce jour.
« Il ose se rire de moi !»«
Tue-le !»
s'écrie Apollon toujours dans l'ultrason.
« Arrache-lui le cœur et dévore-le tout cru !»
Puis, le dieu à l'arc d'argent s'éclipse. Arès est fou de rage. Je décide de m'attarder un peu. Je suis impatient de filer à Olympos afin de me faire une idée de la gravité des blessures d'Aphrodite, mais il n'est pas question que je loupe la scène qui s'annonce. Le dieu de la guerre commence par prendre l'apparence d'Acamas, prince des Thraces, et va se mêler aux Troyens pour les encourager à repousser les Grecs, qui ont profité de l'offensive de Diomède pour ouvrir une brèche dans leur rang. Puis Arès emprunte les traits de Sarpédon et s'en va titiller Hector. Le héros, faisant montre d'une réticence inhabituelle, se tient en effet à l'écart du combat. Honteux des remontrances que lui adresse celui qu'il prend pour Sarpédon, Hector court rejoindre ses hommes. Voyant cela, Arès reprend l'apparence qui lui est propre et va prêter main forte aux guerriers défendant l'hologramme d'Aîné contre les assauts grecs. Jamais je n'ai vu combat aussi farouche en 9 ans de présence, je le confesse. Si Homère nous enseigne une chose, c'est que l'être humain n'est qu'un frêle calice, une outre de chair, de sang et de tripes qui ne demande qu'à être versée. C'est ce qui se produit en ce moment même. Les Achéens n'attendent pas qu'Arès ait trouvé son second souffle. Leurs chars et leurs lances foncent derrière Diomède et Odysseus, leurs chefs intrépides. Les chevaux hurlent, les chars se brisent et s'effondrent. Les cavaliers précipitent leurs montures sur un mur de piques et de boucliers étincelants. Diomède fonce à nouveau en première ligne, ralliant ses hommes à lui, tout en tuant tous les Troyens à sa portée. Apollon redescend sur le champ de bataille dans un tourbillon de brume purpurine et y ramène un aîné guéri, le véritable aîné. Le jeune homme n'est pas simplement sain de corps, il scintille comme scintillait Diomède lorsqu'Athénée l'a modifié. Les Troyens, déjà galvanisés par Hector, poussent un cri de joie en voyant leur prince ressuscité et lancent leur contre-attaque. Aînée et Diomède renversent le cours du combat, tuant les capitaines ennemis par douzaines, tandis qu'Apollon et Arès haranguent les guerriers Troyens. Sous mes yeux, Aînée massacre Orsiloque et Créton, les jumeaux insouciants. Et voilà que Ménélas, guéri de sa propre blessure, écarte Odysseus de son chemin pour foncer sur Aînée. J'entends résonner le rire d'Arès. Le dieu de la guerre serait ravi si le frère d'Agamemnon, le vrai mari d'Hélène, l'homme qui a causé cette guerre en négligeant sa femme, périssait ce jour. Aînée et Ménélas se plantent face à face. Les autres guerriers s'écartent par respect pour leur Aristeia, et les deux hommes donnent de la pique, frappent et feintent. Frappe et feinte. Soudain, Antiloque, frère de Nestor et ami d'Achille, que l'on a quasiment oublié, vient se placer d'un bond aux côtés de Ménélas, craignant sans doute que la cause grecque ne meure avec celui-ci s'il n'intervient pas. se retrouvant face à deux tueurs légendaires et non plus un seul, Aîné bat en retraite. 200 mètres à l'est, Hector fait dans les rangs achéens une incursion d'une telle férocité que Diomède lui-même recule devant lui ainsi que ses hommes. Comme il dispose d'une vision augmentée, Diomède voit sûrement Arès, invisible aux autres, qui se bat aux côtés d'Hector. Je brûle du désir de partir, d'aller voir comment se porte Aphrodite, mais je n'arrive pas à m'arracher à cette mêlée. Je vois Nathan Elser annoter frénétiquement son ancible enregistreur. Cela me fait bien rire, car les milliers de Troyens et d'Argiens qui s'affrontent autour de nous sont aussi illettrés que des bambins de 2 ans. Les griffonnages de Nathan Elser, même s'ils sont en grec ancien, ne signifieraient rien pour eux. Voilà maintenant que tous les dieux se joignent à la fête. Érée et Athénée apparaissent soudain, l'épouse de Zeus poussant visiblement Athénée à en découdre. Celle-ci ne résiste guère. Hébé, déesse de la jeunesse et servante des dieux aînés, descend à bord d'un char volant. Érée en prend le contrôle et Athénée monte aussi à bord, se défaisant de sa robe pour passer son plastron. Son armure est étincelante. Elle lève son bouclier crépitant d'énergie, jaune vif et rouge pulsant, et son épée lance des éclairs sur la terre.
« Regardez !»
C'est Nathan Elser qui me lance ce cri dans le vacarme de la bataille. La foudre frappe pour de bon au nord, issue d'un front titanesque de stratocumulus noir flottant à une altitude de 40 000 pieds, voire davantage, dans la chaleur de l'après-midi. Cette masse nuageuse se meut pour prendre l'aspect du visage de Zeus.
« Eh bien, lancez-vous, mon épouse, ma fille !»
donne une voix tempétueuse.
« Athénée, voyons si tu es l'égal du dieu de la guerre. Terrasse-le, si tu le peux !»
De lourds nuages noirs se massent au-dessus du champ de bataille, tandis que la pluie et la foudre frappent indifféremment Troyens et Argiens. Érée fait du rasmote au-dessus des Grecs, puis perd encore un peu d'altitude pour disperser les Troyens qui tombent comme des quilles de bowling. Athénée bondit sur le char occupé par Diomède, épuisé et maculé de sang séché, et par Sthénélos, son fidèle adjoint.
« As-tu fini ta journée de combat, mortel ?»
hurle-t-elle, insistant sur ce dernier mot d'une voix sarcastique.
« Serais-tu la moitié de l'homme qu'était ton père ?» pour renoncer devant un ennemi qui reprend le dessus ?»
Elle désigne d'un geste Hector et Arès qui font reculer les Grecs.
« Déesse !»
hoquette Diomède.
« Hector est protégé par l'immortel Arès et... »«
Je ne te protège donc point !»
rugit Athénée qui ressemble à une statue de 4 mètres de haut, dressée au-dessus d'un Diomède éteint.
« Si, déesse, mais... »
Diomède, joie de mon cœur, frappe ce Troyen et le dieu qui le protège.
Diomède a l'air stupéfait, voire terrifié.
Nous autres, mortels, ne pouvons tuer un dieu.
Où est écrite cette règle ?
Tonne Athénée. Se penchant sur Diomède, elle lui insuffle quelque chose de nouveau, lui transfère l'énergie de son champ divin. Puis, la déesse saisit un Sthénélos interloqué et le jette à terre. Athénée prend les rênes du char de Diomède et fouette les chevaux qui foncent droit sur Hector, Arès et toute l'armée troyenne. Diomède brandit sa pique, comme s'il avait bien l'intention de tuer un dieu, de tuer Arès. Et Aphrodite veut se servir de moi pour tuer Athénée, songeais-je, le cœur secoué de terreur et d'excitation. Ici, sur la plaine de Troie, les choses vont sans doute diverger du cours que leur a prédit Homère.